France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les débuts de la mobilisation des Gilets jaunes, acte 1, acte 2 et surtout acte 3. Quand à la fin de l'année 2018, le pouvoir politique et les médias découvrent avec stupeur qu'une partie des Françaises et des Français sont en colère. Très en colère. La contestation naît d'abord sur les ronds-points, dans tout le pays, à l'origine contre une taxe sur le carburant. Mais rapidement, c'est le président Emmanuel Macron qui est ciblé. On lui reproche sa politique fiscale et sociale, mais aussi son arrogance. Une partie de la population souffre profondément des inégalités qui fracturent le pays. La fameuse fracture sociale, qui à défaut d'avoir été combattue, perdure et s'aggrave. Peu à peu, certains quartiers parisiens, emblématiques du pouvoir, vont polariser les rancœurs, jusqu'au tournant de l'acte 3. Le 1er décembre 2018, la capitale et ses quartiers de ministères et de boutiques de luxe, Champs-Élysées et Arc de Triomphe, connaissent un embrasement aussi spontané qu'inattendu, quasi insurrectionnel et théâtre de nombreuses violences policières. Notre invité aujourd'hui, Gaspard Glanz, journaliste indépendant, fondateur du média en ligne Tarnis News. Vous entendrez également un reportage d'Annel Verzo auprès d'un groupe de gilets jaunes. Aujourd'hui, que sont-ils devenus ? Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jeanne Mayer, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Burger King au soir de l'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes à Paris. Des CRS en uniforme, casques et boucliers assènent des coups de matraque à des personnes au sol, recroquevillées. Gestes brutaux, chocs répétés, un homme gît en position fœtale. Ce sont les images choquantes, filmées par le journaliste indépendant Nicolas Mercier, qui se trouve alors derrière la baie vitrée du fast-food. Manon, une mère de famille de 28 ans, elle aussi a filmé la scène et diffusé les images en direct sur sa page Facebook.
On a rien fait, monsieur ! On a rien fait !
Aux alentours de 19h, à l'issue d'une journée de manifestation à Paris, émaillée par des violences et d'importantes dégradations matérielles, une trentaine de personnes se réfugient dans ce Burger King pour échapper aux pluies de gaz lacrymogènes qui rendent l'air de la nuit irrespirable. Parmi eux, Manon et son mari, qui, comme la majorité des Gilets jaunes, manifestent pacifiquement, ainsi que plusieurs journalistes. Les CRS semblent se défouler ce jour-là, témoignent deux photoreporters de Libération. Dans le rapport de l'inspection générale de la police nationale, un CRS parle de ses collègues comme des zombies, épuisés par une journée longue, éprouvante. Il évoque également sa peur. Il craint pour sa vie, dit-il. Avant de reconnaître, en regardant les images, que les manifestants ne montrent aucune hostilité dans ce restaurant où ils se sont juste abrités pour respirer. La faute, dit-il, en revient à sa hiérarchie. Vous défoncez tout ce qui se présente à vous, aurait-on ordonné par radio au commandant de la compagnie de CRS mise en cause ce jour-là. 9 policiers seront mis en examen. Pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il n'y a pourtant eu aucune violence de la part de la police, ni ce jour-là, ni aucun autre.
Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc, quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. À l'inverse, j'ai vu des manifestants attaquer systématiquement nos forces de sécurité et attaquer aussi des journalistes. On l'a vu dans ce département, on l'a vu dans la région, je pense aussi à eux.
Des politiques dans le déni, des CRS zombifiés, des manifestants au sol, d'autres révoltés, des journalistes choqués. Et partout ailleurs en France, la colère des ronds-points. Retour sur cette journée emblématique du mouvement des Gilets jaunes, le tournant du 1er décembre 2018. pour une baisse des prix du carburant à la pompe. C'est l'intitulé de la pétition lancée sur Internet par Priscilla Ludowski en mai 2018. Cette chef d'une petite entreprise de cosmétiques bio de Seine-et-Marne y explique que l'augmentation de la taxe sur les carburants, décidée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, est un poids trop lourd à porter quand on utilise sa voiture au quotidien. La taxe, dénonce-t-elle par ailleurs, ne profite pas à l'écologie comme le prétend l'exécutif. À l'automne 2018, plus de 300 000 personnes ont déjà signé cette pétition. Elles seront bientôt plus d'un million. Partout sur Internet, l'augmentation de la taxe carbone provoque la colère des automobilistes qui refusent qu'on leur fasse porter la responsabilité du réchauffement climatique alors qu'ils peinent à boucler leur fin de mois. Sur Facebook, un chauffeur routier de 33 ans, Éric Drouet, lance un appel fin octobre 2018. Bloquer le périphérique de Paris le 17 novembre pour faire reculer le gouvernement. Sa page, La France en colère, est rapidement suivie par des dizaines de milliers de personnes, tandis que d'autres appels du même genre fleurissent un peu partout en France sur les réseaux sociaux. En attendant le jour J, les automobilistes sont invités à poser un gilet jaune de sécurité routière sur le tableau de bord de leur véhicule en signe de ralliement. Bientôt rejoint par d'autres personnalités actives sur Facebook, Éric Drouet et Priscilla Ludowski ne se considèrent pas comme des leaders, mais comme les relais d'une France unie par une même revendication, celle d'une fiscalité juste et supportable par les Français. Et ce n'est pas l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe, une aide à l'achat de véhicules moins polluants, qui va stopper le mouvement naissant des Gilets jaunes. Écho dans ses reportages de France 3, en Bretagne, en Dordogne et en Isère.
Je pense qu'il se cache derrière cette fameuse transition écologique. Il dit tout le temps qu'il nous entend, mais j'ai un doute. Avec le peu d'argent qu'on a, on a du mal à s'en sortir en fin de mois. Je pense pas que ça, ils l'entendent.
On ne traite pas le problème entièrement. Le gouvernement est en train de nous répondre sur les taxes sur le carburant uniquement, alors que c'est simplement l'élément déclencheur. On attend beaucoup plus, on attend des actions plus massives et plus larges que des simples aides à la transition des chèques carburant ou des chèques énergie. C'est pas ça qui solutionnera le problème et qui va calmer la colère des Français le 17 novembre.
Ouvriers et ouvrières, employés, petits commerçants, chômeurs, patrons et patronnes de PME, professions intermédiaires, à la fin de l'automne 2018, c'est tout un pan de la population française qui refuse de subir davantage le poids du prix du carburant sous le prétexte d'une politique écologique en réalité minimaliste. Et progressivement, d'autres enjeux se superposent. Sur les réseaux sociaux, on parle désormais baisse du pouvoir d'achat, inégalité, ISF, délaissement des territoires ruraux, désertion des services publics, mépris politique. Le gilet jaune, celui qu'on met pour signaler sa détresse lorsqu'on est sur le bord de la route, devient alors l'incarnation des souffrances de celles et ceux qui se sentent laissés pour compte, et même humiliés par la politique de ses dirigeants qui ne semblent parler qu'aux plus riches. Oui, c'est bien leur sentiment. Au total, 288 000 personnes, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, et probablement deux fois plus pour les organisateurs, il y a forcément des documents, comme d'habitude. Bref, de nombreux manifestants protestent le 17 novembre 2018, lors de cette première journée d'action nationale, à l'ampleur imprévue et sous-estimée. Il faut dire que la mobilisation des Gilets jaunes ne ressemble pas aux mouvements sociaux traditionnels. Née sur Internet, elle ne connaît ni porte-parole officielle, ni ancrage syndical. Horizontale, apolitique, spontanée, le mouvement des Gilets jaunes prend bien des formes en bien des endroits. Le 17 novembre, plus de 2000 rassemblements, barrages et cortèges, déclarés ou non en préfecture, sont recensés dans toute la France. Après cet acte 1, fédérateur, la mobilisation se renforce. Partout sur les ronds-points et autres lieux stratégiques, péages, dépôts de carburant, zones commerciales, on s'organise pour faire durer les blocages. Maintenir la pression sur le gouvernement en attendant l'acte 2, prévu le 24. Alors, femmes et hommes se relaient, nuit et jour, par petits groupes de 10, 20, 30, pour bloquer, mais aussi échanger, débattre, comme ils, elles, le racontent sur France 3 dans le Limousin, en Normandie et en Corrèze.
Cette cabane, elle a été construite avec tous les dons de bois, toutes les palettes. On va dire les murs principaux, ce sont des palettes. Après, on a mis des gros troncs de bois sur le toit. On a à l'intérieur, il y a notre petite cuisine. Il y a tout pour faire à manger. Il y a un coin repos, puis pour être à l'abri aussi parce qu'il s'annonce un peu de pluie, beaucoup de froid. On est parti pour rester. On a installé un sapin de Noël juste là-bas. On partira pas tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut.
On ne bloque pas les voitures. Tout est fluide. On n'a pas gêné la circulation pour les gens qui allaient travailler ce matin. Le but, c'est pas d'embêter la population. On fait une sorte de mise en garde. On montre qu'on est capable de bloquer les camions et de bloquer le trafic. On prévient le gouvernement. Pour l'instant, on tape pas fort. Mais on est présent, on est toujours là et on est très en colère. Donc il va falloir nous écouter et nous prendre au sérieux.
Il y en a qui voulaient nous faire passer pour une ZAD. C'est pas du tout la vérité. C'est un point de ralliement. C'est bon enfant. Écoutez, les gens klaxonnent. Vous avez vu par vous-même, nous amène de la nourriture, des couvertures, des palettes. On a réussi à faire cette petite cabane pour tenir un peu tout le monde à l'abri, au chaud. On va installer un poêle à bois. Et puis voilà.
Le 24 novembre 2018, ce sont plus de 166 000 personnes qui manifestent en France, en centre-ville et sur les ronds-points, dont 8 000 à Paris. Un acte 2 plus mouvementé que le premier, notamment dans la capitale, où la tension monte entre Gilets jaunes et CRS. À la télé, des commerçants mécontents sont régulièrement invités à évoquer l'impact du mouvement sur leur chiffre d'affaires. Le 27 novembre, après 10 jours de mobilisation, et alors qu'une troisième journée nationale se profile, Éric Drouet et Priscilla Ludowski, deux des figures du mouvement, sont invités par le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, à venir dialoguer avec l'exécutif. Éric Drouet filme la rencontre en caméra cachée et diffuse les images sur Facebook. L'entrevue ne donnera rien. Le matin même, le président de la République a pourtant tenu un discours qu'il a voulu ouvert et apaisant. Il a appelé à l'organisation de concertation nationale sur la transition écologique et annoncé vouloir prendre des mesures pour répondre aux revendications des Français. Réaction à chaud sur France 3 Régions aux alentours de Saint-Étienne-du-Rouvray, de Blois et de Pau.
C'est des mesurettes. Et puis, en fin de compte, ce qu'on nous a demandé, c'était soit l'augmentation des salaires, soit l'abolition de certaines taxes pour pouvoir nous redonner du pouvoir d'achat à tous les Français.
Ça va être encore des effets d'annonce, de la poudre aux yeux. Je m'attends pas à des merveilles. Je pense qu'il va vouloir lâcher un petit peu du lest, mais vu comme il nous a pris de haut depuis le début, je pense qu'il va essayer de faire quelques concessions, mais ça va être loin du compte. Hein.
Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que non, il n'y a pas de réelle envie d'améliorer le sort des gens. C'est vraiment le profond sentiment qu'on a eu aujourd'hui. Samedi prochain, du coup, est maintenu et ça sera, il y aura le rendez-vous comme samedi dernier aux Champs-Élysées.
Tout cela nous amène au samedi 1er décembre 2018, acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes, l'acmé du mouvement. On se réveille très tôt ce matin-là pour rejoindre des amis, des collègues, un covoiturage, un point de rendez-vous. Il y a les opérations péage gratuits sur toutes les autoroutes de France. Il y a les blocages de routes, d'aéroports, de centres commerciaux. Enfin, il y a des cortèges plus classiques de manifestants et de manifestantes qui entendent tout simplement faire nombre, comme à Bordeaux, Albi, Lille, Rennes, Tours ou Dijon. À Paris, deux rassemblements ont été déclarés auprès de la préfecture de police entre la place de la Madeleine et la place de la République. Mais de nombreux autres appels informels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour manifester au plus près de l'Élysée. Et il n'en fallait pas plus pour que 5000 policiers soient mobilisés, dont 1700 dévolus au filtrage des manifestants sur les champs. Un périmètre fermé a été délimité, accessible seulement sur présentation des sacs et des pièces d'identité. Le 30 novembre, la veille de l'acte 3, le préfet de police de Paris, Michel Delpech, donne ses dernières recommandations devant 120 responsables du maintien de l'ordre. Le dispositif retenu est conséquent, mais le préfet ne se montre pas particulièrement inquiet. À 6h du matin, les abords de la place de la Concorde, de la place Beauvau, de Matignon et de l'Assemblée nationale sont fermés. Sur France 2, dans le journal de 7h, le journaliste David Lefort donne ses premières impressions, genre le calme avant la tempête.
Alors les premiers véhicules de gendarmerie sont venus se positionner vers 5h30 pour bloquer les accès principaux à la place de la Concorde. Ils sont de part et d'autre de cette place. D'autres un petit peu plus loin se sont positionnés cette fois en amont de ce qu'on appelle l'étoile, le carrefour en fait, juste derrière moi où se trouve l'Arc de Triomphe. Pas de gilets jaunes pour le moment, c'est vrai qu'ils sont attendus un petit peu plus tard dans la matinée. Les premiers devraient se positionner ici, en tout cas tenter de rejoindre les Champs-Élysées qui seront libres de circulation pour les piétons, mais filtrés.
Nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on n'a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes. Allumer l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connasse hystérique. Tout est réact, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal, quelque part le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent.
Aujourd'hui, les gilets jaunes.
France Inter, affaires sensibles.
Les gilets jaunes qui le répètent. Certains sont de gauche, certains sont de droite, beaucoup ne sont ni de gauche ni de droite. Mais peu importe, parce que le mouvement ne s'inscrit dans aucun courant politique. Mais à Paris, si la grande majorité des manifestants de l'acte 3 insistent sur l'apolitisme du mouvement, d'autres vont affirmer très clairement leur appartenance militante. Ainsi, tôt le matin, en ce 1er décembre 2018, des journalistes présents sur la place de l'Étoile repèrent des figures bien connues de l'extrême droite, identitaire, nationaliste ou royaliste. Sur Twitter, une vidéo amateur montre Yvan Benedetti, ancien chef de l'œuvre française, un groupuscule antisémite dissous en 2013, aux prises avec des manifestants présentés, eux, comme des militants antifascistes. Car la gauche radicale, elle aussi, va pointer le bout de son nez, comme illustrent certains tags, dont le désormais célèbre ACAB, All Cops Are Bastards, en français, tous les flics sont des bâtards. Mais le gros des manifestants qui s'amassent autour de la place de l'Étoile au fil de la matinée, ce sont des gilets jaunes, disons, ordinaires. Oui, ordinaires, mais très en colère. Pour les manifestants, le dispositif coercitif mis en place par la préfecture, avec fouille et restriction du périmètre, a tous les attributs d'un piège. Et beaucoup entendent exprimer leur ras-le-bol là où ils veulent, c'est-à-dire hors de la zone surveillée des Champs-Élysées. Alors que des petits groupes de gilets jaunes s'éparpillent dans ce quartier chic de la capitale, la situation s'envenime. Reportage de Béatrice Duguay au journal de 13h sur France Inter.
Depuis 9h ce matin, les affrontements sont allés crescendo. Des casseurs, environ 3000 selon le gouvernement, cherchent à dresser des barricades avec des grilles de chantier en divers endroits, avenue de la Grande Armée, avenue Marceau. Ça se déplace en ce moment dans les rues adjacentes aux Champs-Élysées. Et les gendarmes mobiles répliquent à coups de lacrymogènes, beaucoup dispersés par le vent. Et depuis une bonne heure et demie maintenant, avec des bombes assourdissantes aussi, assez impressionnantes, des véhicules anti-barricades. Tristes images pour bien des gilets jaunes. Tony, chômeur, à moins de 1000 euros par mois pour vivre, et il est dépité, pessimiste aussi.
Hélas, le pire est à venir. On comprend bien les revendications de l'État, tout ça. Mais bon, le souci, c'est que nous, on n'y croit plus.
Lacrymo.
On sent bien qu'il y a un gros mépris de la part du gouvernement, et d'insultes à l'intelligence aussi beaucoup. On la comprend, la transition écologique. On la comprend, mais est-ce que c'est à nous de la payer notre poche ?
Habitué au cortège classique, localisé et peu mobile, la police est rapidement submergée par ce petit groupe de quelques dizaines de personnes qui se dispersent dans les rues autour de la place de l'Étoile, jusqu'à la place de l'Opéra et la rue de Rivoli. Les images que les chaînes d'information en continu diffusent en direct sont impressionnantes. Des voitures retournées, calcinées, une épaisse fumée noire dans le ciel, des barricades, le bitume éventré, jonché de débris de verre et de palais de gaz lacrymogènes, Paris brûle, titreront plusieurs médias au lendemain de l'acte 3. Mais ce n'est pas Paris qui brûle, ce sont certains quartiers, certains symboles. Avenue Kléber, rue des Rivoli, place Saint-Augustin, avenue Foch, rue Cambon, avenue de Wagram, les Champs-Élysées aussi, malgré l'important dispositif policier. Le 8e et le 16e arrondissement, autant d'incarnations du pouvoir et de la richesse qui se voient dégradées, pillées, avilies dans un geste que d'aucuns qualifieront de vengeur ou désespéré.
Direct de l'intérieur de l'Arc de Triomphe, on est là. L'Arc de Triomphe!
Aux alentours de 16h, un groupe de gilets jaunes enfonce la porte de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile, et pénètre dans le bâtiment pour déployer un drapeau français sur le toit. La boutique qui vend des répliques miniatures de monuments parisiens est pillée. Des œuvres d'art sont taillées ou cassées, comme la réplique en plâtre d'une statue du sculpteur français François Rude, la Marseillaise, dont le trou béant dans la joue deviendra pour certains le symbole des violences commises ce jour-là. Dehors résonne l'écho des jets de pavés des manifestants, alors que les CRS donnent l'assaut. Reportage de Farida Noir sur France Inter.
Dernière charge de CRS pour libérer l'Arc de Triomphe. La nuit tombe, acculés, les gilets jaunes quittent la place de l'Étoile. Certains choisissent de résister.
On met le peuple.
Un gilet noir et jaune. Le peuple, le peuple.
Si on bouge pas, rien ne bougera en fait. Il n'y a pas de dialogue en face, ils nous prennent pour des cons. On va leur montrer c'est qui les cons aujourd'hui.
Nathan, jeune gilet jaune charentais à la main en sang, un tir de flashball, dit-il. Il est venu manifester pacifiquement, mais il s'est radicalisé au fil de la journée.
Moi, ce qui m'emmerde le plus, c'est qu'on est en train de défendre quelque chose de juste, quelque chose de beau, quelque chose de noble. Et on se laisse embarquer dans le jeu du gouvernement qui joue la provocation et qui nous force finalement, pour se faire entendre, à faire des trucs que moi, je cautionne pas de base. Moi, les gens qui vont se lever demain matin avec leur bagnole cramée, bah, j'ai de la peine pour eux. Et ça me fait chier parce que c'est pas pour ça que je me passe, c'est pas pour griller la vie des gens. C'est pour empêcher qu'on se fasse exploiter par nos élites qui se pensent clairement au-dessus de nous. Et voilà, on est juste de la marchandise, bonne à leur faire toujours plus de profit.
Ailleurs en France, certaines manifestations pacifiques connaissent elles aussi des accès de violence et des dégradations. Au Puy-en-Velay, des manifestants jettent des projectiles incendiaires sur la préfecture au terme d'une journée d'affrontement avec la police. À Narbonne, un péage est brûlé. À Marseille, des magasins sont pillés. Au total, 383 personnes sont placées en garde à vue en France pour 137 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur et plus de 800 000 selon le syndicat France Police. Cherchez les menteurs comme d'habitude. Dans la capitale, la préfecture estime qu'un tiers des 10 000 gilets jaunes venus manifester ont commis des violences, des dégradations ou des pillages. Un chiffre souvent remis en cause, étant donné la difficulté de compter des individus si mobiles. Parmi les personnes interpellées, un profil émerge, peu habituel. Des hommes de 30 ou 40 ans, ouvriers, artisans, chauffeurs de poids lourds, boulangers, venus de toute la France et inconnus des services de police. Pour l'instant. Alors que les rues de Paris, Dijon, Tours, Tarbes, Charleville-Mézières ou Marseille retrouvent leur calme, l'heure est au bilan au soir du 1er décembre. À Marseille, une octogénaire, Zineb Redouane, a été touchée par une grenade lacrymogène alors qu'elle fermait ses volets. Elle décédera le lendemain. À Arles, un automobiliste est mort après avoir percuté un poids lourd arrêté par un barrage de gilets jaunes. Selon la place Beauvau, 81 policiers et 182 manifestants ont été blessés dans toute la France. Parmi les gilets jaunes, 5 personnes sont grièvement touchées, dont un jeune homme de 28 ans qui manifestait avec sa compagne et ses parents à Toulouse. Visé en pleine tête par un tir de lanceur de balles de défense, ou LBD, il est placé dans un coma artificiel de 3 semaines pour stabiliser son état. À Bordeaux, un homme de 37 ans, Frédéric Roy, voit sa main droite arrachée par l'explosion d'une grenade GLI F4, une arme dont les avocats William Bourdon et Harry Halimi vont alors demander l'interdiction au gouvernement.
Les dossiers que nous portons illustrent tous un usage manifestement et indiscutablement disproportionné de la violence.
Ce sont des grenades militaires. Ce sont des grenades qui peuvent normalement être utilisées sur un champ militaire, mais qui posent une vraie problématique face à des civils. C'est-à-dire que l'on voit des blessures, des mutilations, voire des morts avec l'usage de ces grenades.
À Avignon, Bordeaux, Calais ou Paris, certains blessés expliquent avoir été touchés alors qu'ils manifestaient calmement. D'autres sont de simples passants, comme le journaliste Hugo Clément, blessé au visage par un projectile lancé par un policier alors qu'il allait boire un verre. Je ne pointe pas du doigt l'ensemble des policiers qui ont dû travailler dans des conditions très stressantes, écrit-il sur Twitter. Tandis que d'autres victimes dénoncent le sentiment d'impunité de ces policiers qui se savent protégés par leur hiérarchie et, en premier lieu, par le ministre de l'Intérieur. Au lendemain du 1er décembre 2018, les médias français ne sont que flammes et chaos. La violence des casseurs, le mot est dans toutes les bouches et prend le pas sur tous les autres aspects de l'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes. Les sujets se suivent et se ressemblent. La difficulté du travail de la police, le coût des dégâts matériels, l'atteinte portée à la République française. Les violences policières ne sont pas encore un sujet médiatique. Et il faudra attendre 5 jours pour que le matraquage du Burger King, évoqué en début d'émission, ne soit repris par Libération, France TV Info, Combini ou Le Parisien. Quant aux voix des dizaines de milliers de Français et de Françaises qui ont manifesté ou bloqué sans heurts pour dénoncer les inégalités et réclamer plus de justice sociale, elles sont étouffées par le tumulte du sensationnalisme médiatique et des condamnations officielles.
Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés, ou que l'arc de triomphe soit souillé. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice.
Et de la part du gouvernement, on entend parler de la stratégie de professionnels du désordre, de professionnels de la casse qui auraient infiltré la mobilisation, je cite. Pour l'exécutif, il y a donc les vrais gilets jaunes et leur colère légitime qu'il dit entendre, et les casseurs. Pourtant, entre gilets jaunes et casseurs, citoyens français, professionnels du désordre, colère et frénésie, la frontière a été poreuse, mouvante, le 1er décembre 2018. Et c'est sans doute cette complexité qui inquiète et qui déstabilise. Le 2 décembre, Emmanuel Macron et Christophe Castaner viennent constater des dégâts sur la place de l'Étoile, accueillis par des applaudissements ou par les huées des riverains.
Bravo, bravo,
bravo, bravo, bravo.
Et c'est simplement ça que je pense. Et pour moi, c'est tout le problème. C'est que Macron, il adore les puissants, il adore les grands patrons, il adore les grands financiers, il adore les très riches, comme a dit Alain. Par contre, le peuple, non seulement il ne l'aime pas, mais en plus il le méprise. Voilà, et voilà c'est pourquoi on en arrive là. Donc en fait, toute cette casse, c'est désolant. Ce qui a été fait à l'Arc de Triomphe, c'est effectivement désolant. Mais pour moi, le premier responsable, c'est Monsieur Macron.
Selon différents sondages d'opinion, de 68 à 72% des Français et des Françaises soutiennent le mouvement des Gilets jaunes au lendemain de l'acte 3. Que l'on condamne la violence de certains manifestants ou qu'on les comprenne, le 1er décembre 2018 a été vécu par la majeure partie de la population comme une journée de mobilisation sereine. Oui, il y a bien eu des tensions lors de certains blocages, mais toute la France n'a pas plongé dans le chaos ce jour-là. Fachos, factieux, nervis, racistes, complotistes, poujadistes, psychotiques, racailles, ignares, abrutis ou beaufs, en public ou en privé, face caméra ou sur Twitter, certains journalistes de TF1 à Libération, de Radio Classique à BFM TV, n'hésitent pas à réduire le mouvement des Gilets jaunes, protéiformes et complexes, à des qualitatifs qui relèvent parfois de l'insulte. Lorsqu'on manifeste pour dire son sentiment d'exclusion, les fins de mois difficiles, l'humiliation quotidienne, lorsqu'on échange, qu'on débat, qu'on réfléchit sur les ronds-points depuis deux semaines déjà, lorsqu'on est gilet jaune, il est difficile de s'entendre traiter ainsi. Quant au complotisme, qui concerne bel et bien certains manifestants, il semble parfois brandi comme une preuve, celle que les gilets jaunes, dans leur ensemble, sont inaudibles et illégitimes. Au fil des jours, beaucoup d'entre eux se sentent heurtés, non plus seulement par le pouvoir politique, mais par les grands médias qui, ressentent-ils, ne comprennent pas ce qui se joue en France. Certains relais médiatiques vont bientôt privilégier les réseaux sociaux au détriment des plateaux de télé, accusant les médias traditionnels d'une trop grande proximité avec le pouvoir. C'est le cas du chauffeur routier de Belin, Éric Drouet, qui répond régulièrement aux questions des internautes lors de live Facebook, des vidéos diffusées en direct sur sa page. L'acte 3 des Gilets jaunes marque ainsi le début d'une fracture profonde entre les Gilets jaunes, précisément, et les journalistes.
On pourra réfléchir ensemble à la doctrine. Je pense qu'il faudra effectivement, à l'aune de ce qui vient de se passer, la revoir en profondeur, tout comme il faudra la revoir pour samedi prochain. J'aborderai cela, mais en ayant en tête que, évidemment, il ne s'agit pas dans une audience publique de déterminer et de surtout d'indiquer quelles seront les façons dont nos forces de l'ordre vont protéger la capitale et les autres villes de France. Mais je vous dirai quelques éléments sur cela.
Après cette journée du 1er décembre, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, élabore une nouvelle stratégie du maintien de l'ordre, plus offensive, plus mobile, plus dure aussi. Ne pas subir le choc, mais le provoquer, explique Grégory Joron, du syndicat Unité SGP Police FO. Et tandis que beaucoup de gilets jaunes réclament bien naïvement la démission du président Emmanuel Macron, l'opposition, elle, demande un référendum, en la personne de Laurent Wauquiez, ou une dissolution de l'Assemblée, ce qui est le cas de Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Dans les jours qui suivent l'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes, l'exécutif annonce une série de mesures censées combler les attentes et calmer les colères. Pas de référendum, pas de démission, mais les hausses de taxes sur les carburants sont annulées pour 2019. Lors d'une allocution solennelle à la télévision, Emmanuel Macron promet également 100 euros mensuels de plus sur le SMIC, une mesure en réalité déjà programmée, des heures supplémentaires sans impôts ni charges, et une baisse des taxes pour certains retraités. L'impôt de solidarité sur la fortune, en revanche, ne sera pas rétabli, n'en déplaise aux Gilets jaunes. Réaction sur France 3 en région.
Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois.
C'est rien comparé à tout ce qu'on peut payer et tout ça. Donc
100 euros, c'est quoi? C'est rien. Si, ça fera quelques paquets de pâtes de plus pour bouffer, c'est tout. C'est ça que je bouffe tous les mois, quasiment. Ça et des patates. Il va faire quoi, lui? Rien.
C'est pas des mesurettes qu'on veut. Nous, c'est des mesures concrètes. Un vrai pouvoir d'achat.
Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune.
L'impôt sur la fortune, les riches, ils en sont où, là?
Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos.
On lui a insufflé de dire ça. Il joue très bien son rôle, hein, mais il ne m'a pas fait pleurer. Moi, j'ai jamais eu confiance en lui.
Il n'y a rien. J'ai même pas envie d'en parler parce que ça me...
On se revoit samedi, c'est tout. Émission.
Ça, c'est une pétition en faveur du référendum d'initiative citoyenne qu'on va mettre en place.
Le RIC, ou référendum d'initiative citoyenne, est un dispositif de démocratie directe qui deviendra bientôt la revendication principale des Gilets jaunes. Car la hausse des taxes sur le carburant n'a été que le déclencheur d'une mobilisation qui entend questionner plus globalement la fiscalité, la transition écologique, la démocratie, l'organisation de l'État ou les inégalités. Cet acte 3 sera suivi de nombreuses autres manifestations de gilets jaunes, jusqu'à ce que le mouvement s'étiole, après plusieurs mois de mobilisation intense, et notamment à cause du confinement dû à la Covid, cette immense catastrophe sociale. Mais pour les personnes qui ont manifesté, pour les journalistes, pour les forces de l'ordre, et pour celles et ceux qui dirigent le pays, cette journée du 1er décembre 2018 demeure un symbole. Un symbole que deux images peuvent incarner. La première, c'est ce visage brisé, celui de la statue de la Marseillaise, que les manifestants ont abîmé lors de ce qu'on a parfois désigné comme la prise de l'Arc de Triomphe. La seconde, c'est un autre visage, ou plutôt d'autres visages, non pas de plâtre, mais de chair et d'os, meurtri, ensanglanté. Ceux des manifestantes et des manifestants touchés par les tirs de LBD des policiers. Deux visages, deux facettes d'une même France fracturée par les injustices et les inégalités que les gilets jaunes ont voulu dénoncer parce qu'ils les subissent.
Chaque jour, il faut s'y faire. Elle revient toujours, la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de l'intérieur. Chaque jour sur un bout de terre. Elle revient toujours, la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours, la colère. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours, la colère. Chaque jour sur un bras de mer. Elle revient toujours, la colère. Chaque nuit comme en plein cœur. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour même les plus ordinaires. Elle revient toujours, la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle prend de la hauteur. Chaque jour, depuis des millénaires, elle revient toujours, la colère. Chaque jour, depuis des millénaires, elle revient toujours, la colère. À croire qu'elles sont plusieurs, à nous grignoter le cœur.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les Gilets jaunes. Notre invité Gaspard Ganz, journaliste indépendant, fondateur du média en ligne Taranis News. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez, entre autres mouvements sociaux, couvert la mobilisation des Gilets jaunes. Un mot quand même de Taranis News. Est-ce que vous avez une façon particulière de couvrir ce genre d'événement, par exemple? Avec quel œil?
Alors on est soit des journalistes en photo, soit des journalistes en vidéo, donc on essaye de ne pas mettre de commentaires dans nos images quand on est en vidéo, donc c'est un reportage qui est no comment, et qui essaye de représenter, en termes chronologiques, ce qui a pu se passer dans la manifestation, donc on la suit de son départ jusqu'à son arrivée, en essayant de montrer les temps forts, éventuellement d'interviewer certains acteurs, certains participants, mais de rester dans le no comment et dans dans la chronologie pour que les gens puissent se faire leur propre idée, leurs propres opinions sur ce qu'ils voient et ne pas être guidés par une voix, par un discours politique ou par une orientation que pourraient avoir d'autres contenus.
Quel souvenir gardez-vous de ce 1er décembre 2018? Je crois que vous n'étiez pas Paris, ce jour-là.
Alors, c'est malheureusement la seule journée des Gilets jaunes quasiment ouais. que je...
Enfin, il s'est passé des choses ailleurs. Hein.
Alors, il y a eu d'autres choses ailleurs, puis il y a eu d'autres journées sur les Champs-Élysées à Paris, malgré le 1er décembre, par exemple. On a souvent le souvenir de la terrasse du Fouquet's qui brûle. Alors, je ne sais plus exactement quelle date c'était, mais c'était pas le 1er décembre, c'était bien plus tard, c'était l'année d'après. Et donc, c'est un moment qui a un peu duré. Donc, les Champs-Élysées ont été pris plusieurs fois. L'Arc de Triomphe n'a été occupé qu'une seule fois, mais disons que les Champs-Élysées étaient devenus un peu le... Après cette journée du 1er décembre, un symbole du lieu à prendre, du lieu à occuper et du point de ralliement dans la capitale des manifestants venus de Provence.
Mais qu'est-ce qui vous a frappé, vous ?
Ce qui m'a frappé, c'est que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'était pas du tout des mouvements de manifestants comme on peut le voir dans les manifs traditionnels syndicales, etc. Comme c'est des gens qui n'avaient pas l'habitude de manifester, ils n'avaient pas forcément les codes de rester dans le cortège central, de ne pas aller sur les trottoirs, de ne pas sortir du tracé, etc. Là, c'était vraiment des gens qui n'avaient pas l'habitude de manifester, donc qui étaient prêts à courir, à marcher dans les rues en parallèle, etc. Ce qui a désorganisé éventuellement certaines organisations qui voulaient gérer ce mouvement, mais qui a aussi désorganisé les forces de police qui n'avaient pas l'habitude de gérer ce genre de gens qui étaient très très mobiles en fait et qui leur passaient derrière, qui allaient dans les rues parallèles, etc. Et je pense que les premières journées, le ministère de l'Intérieur a été très dépassé par la rapidité et la désorganisation pour la police en réaction. Quoi.
Et le mouvement des Gilets jaunes est d'abord né sur Facebook, donc hors des réseaux habituels militants ou syndicaux. Est-ce que cette mobilisation vous a surpris ? Elle était le reflet d'une époque aussi, c'est le reflet d'une époque numérique, hein, d'un accès à la parole par le numérique.
Alors c'est pas le premier mouvement social qui a profité de mais c'est celui qui probablement l'a le mieux exploité sur les dernières années. Ce que je trouve très intéressant, c'est de comparer par rapport à aujourd'hui la réforme des retraites. Ça veut dire qu'au final, en entendant votre reportage, on retrouve beaucoup de discours qu'on retrouve en fait aujourd'hui. Ça veut dire une espèce de désespérance des gens qui vont manifester comme le dernier recours en fait et le mouvement des Gilets jaunes, c'était vraiment ça. C'était des gens qui n'allaient jamais manifester, qui étaient même parfois politiquement complètement dans le spectre opposé, avec des gens de droite, voire même d'extrême droite, comme vous l'avez précisé, qui manifestaient au début avec des gens d'extrême gauche, sans même s'en rendre compte, parce qu'ils étaient munis par le mouvement de la manifestation, plus que par leurs orientations politiques au début. Et donc oui, on a eu beaucoup de mouvances différentes qui se sont assimilées et donc ça avec des techniques différentes et donc ça a donné des manifestations avec un autre visage.
Et précisément parce que là ça débouche sur une question importante, l'une des questions les plus importantes pour comprendre ce qui s'est passé, le fait que ce mouvement des gilets jaunes n'était pas fédéré, c'était une force ou une faiblesse ou les deux?
Alors ça, il faudra le redemander, mais je pense que en ce qui concerne le maintien de l'ordre et les manifestations, pour eux, c'était une force. Je n'ai pas souvenir de manifestations qui soient produites sur les Champs-Élysées. Déjà, en général, c'est très rare. Ensuite, de cette manière-là, il me semble pas que ça soit déjà arrivé. Et ça s'est produit à plusieurs reprises. Encore une fois, il y a eu d'autres manifestations après ce 1er décembre. On aurait pu croire que la réaction policière du ministère de l'Intérieur aurait fait que cette zone devienne inaccessible. Par la suite, elle a été reprise. Le Fouquet's qui brûle, ça a été une image très forte pour dire l'Arc de Triomphe n'a pas été pris ce jour-là, mais le Fouquet's a quand même brûlé, ce qui est un symbole aussi un peu. Le restaurant avait été pillé en partie, etc. Et je pense que oui, on avait une espèce de le ministère de l'Intérieur ça était habitué à gérer des manifestations syndicales et s'est retrouvé avec la naissance d'un véritable Black Bloc en France qui s'est construit sur les 10 dernières années, mais qui a vraiment pris de l'ampleur au moment du mouvement des Gilets jaunes.
Peut-être qu'il y avait une faiblesse dans le manque de culture politique, précisément parce que c'était pas dans une configuration habituelle. Quand les Gilets jaunes souhaitaient demander la démission du président, on sait bien qu'un président est intouchable en France, hein, c'est un roi, on ne peut pas le toucher. La rue ne peut pas le faire démissionner. Et pourtant, ils y croyaient, et ça a créé des critiques, ça a débouché sur certaines critiques qui étaient parfois très dures d'ailleurs.
Bah, c'est un peu comme aujourd'hui, encore une fois, on est dans le mouvement des retraites et on voit comme le gouvernement est en opposition avec les syndicats. Et c'est encore une fois le même rapport, ça veut dire il y a une espèce de mépris de la part du gouvernement envers les syndicats. Bon, là, c'est un mouvement syndical, le mouvement des Gilets jaunes était moins... ils avaient moins d'interlocuteurs, on va dire, auprès des manifestants. Mais c'est encore une fois, il y a un écart qui se creuse, en fait, entre le gouvernement, le ministère de l'Intérieur et les manifestants. Et les syndicats, et ça c'est linéaire en fait depuis une bonne dizaine d'années en fait. C'est pas propre au président Macron, ça a commencé avant. Mais là, ça, on va dire que ça prend de l'ampleur et que ça se ressent dans la société. Moi, je pense qu'il y a une partie des gens qui manifestaient au moment des Gilets jaunes, qui aimeraient bien manifester aujourd'hui, mais qui soit n'en ont plus les moyens, soit n'en ont plus l'envie, parce qu'ils pensent que ça vaut pas la peine après avoir s'être mobilisé autant pendant les Gilets jaunes. Ils ont l'impression que ça n'a servi à rien, alors qu'ils ont risqué parfois des violences, des blessures, des arrestations, etc. Et c'est aller très loin. Et donc, je pense que oui, il y a un mouvement un peu de... Les Gilets jaunes ont marqué le pays, mais autant dans des points positifs que négatifs.
Alors justement, ça nous amène à cette question. Que sont devenus les Gilets jaunes? Leur situation aujourd'hui est-elle la même qu'en 2018? Avec notre reporter Annel Verzo, pour essayer de le savoir, nous allons partir à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, où une trentaine de Gilets jaunes n'ont jamais cessé de se réunir, figurez-vous, sur le rond-point des Vaches.
Tu veux pas allumer un feu aujourd'hui, toi?
Alors là, on se trouve sur le rond-point des Vaches, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et là, il y a une cabane, mais c'est un peu plus qu'une cabane, hein. C'est carrément une petite maison, presque. Enfin, vous appelez ça la cabane. Et c'est la...
Combien 85e.
85e cabane. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les cabanes sont détruites et vous en reconstruisez d'autres.
C'est oui.
Ou elles sont détruites, ou alors on a eu des incendies criminels aussi.
Oui, on rentre dans la cabane.
J'ai passé un petit coup de chiffon là.
Et là, donc, vous avez installé des tables, il y a des chaises, il y a de quoi accueillir du monde.
Bah, la cabane, c'est un lieu qui est fréquenté tous les jours. Ça a permis aussi à des anciens d'avoir un endroit de tisser des liens aussi avec d'autres, parce que sinon ils sont isolés, ils étaient chez eux tout seuls.
Dans le sens...
Ça a été un lieu de rencontre. Hein. Ça a été un lieu de rencontre aussi. Certains, il y a des couples.
Il y a eu des mariages.
Exactement.
Il y a eu de tout ici.
Vos prénoms, vous voulez donner vos prénoms ou d'autres prénoms?
Non, je vais donner mon prénom. Moi, je m'appelle Guénaëlle.
Jocelyne.
Certifa.
Et Carlos.
Vous, Jocelyne?
Je suis retraitée, moi.
Vous faisiez quoi avant comme métier?
J'étais assistante de gestion.
Votre retraite, elle est de combien à peu près?
À peine 1200.
Alors moi, je suis au SMIC, en fin de compte.
Vous calculez quand vous faites vos courses?
Bien sûr. Et les plaisirs, on en a de moins en moins. Mais ma vie, là, elle est bâclée. Pour moi, elle est bâclée. Le système nous bâcle notre vie. Et la vie, elle est importante pour tous.
Et vous, Carlos, alors vous travaillez aussi?
Donc, ça fait 30 ans que je travaille dans le BTP. J'ai 53 et ça commence à... J'ai commencé à avoir un petit peu mal partout. Mon salaire, c'est de 1500 euros. Ma femme, elle a des problèmes de santé. Elle fait 15 heures par semaine. Donc, ça le fait 600 balles. Donc, nous deux, c'est 2100 balles. Avec un enfant, de la façon comme les prix sont en train d'augmenter, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Ça commence à être très dur.
Oui, en fait, la situation par rapport à 2018...
Elle est pire que 2018.
À tous les niveaux, en plus.
Pouvoir d'achat, liberté, qu'on nous a touché énormément. Non, c'est pire.
On a obtenu des choses, mais temporairement. Parce qu'après, il nous a embobiné avec son grand blabla.
Le grand blabla, c'est quoi? C'est le grand débat?
Ah, oui. C'est Emmanuel Macron. Il faisait ses grands blabla avec les gens qui voulaient.
C'est-à-dire que vous,
les intéressés, maires c'était tout ça, qu'il avait convoqué les maires de toutes les régions, qu'il a fait tout un cinéma, qui a coûté beaucoup d'argent aussi, tout ça. Parce que ses déplacements, c'est pas gratuit, ses repas avec les maires, hein, ils mangent pas comme nous une purée jambon, hein. Donc tout ça, ça a coûté de l'argent et pour rien du tout. Juste pour son intérêt à lui.
Vous demandiez un RIC, un référendum d'initiative citoyenne.
Qui a jamais été pris en compte.
Réellement, ça permettrait aux Français de participer à la vie politique à tout moment. Par exemple, là, sur la question des retraites, s'il y avait un référendum, c'est-à-dire si les citoyens pouvaient dire « Nous, on exige qu'il y ait un référendum sur cette question ».
Là, le peuple aurait la parole.
Parce que les cahiers de doléances, c'est devenu quoi, vous savez, non? Il y a eu à un moment donné un élan avec « Faites vos doléances, écrivez-nous des messages et on vous répondra », etc.
Ils sont aux oubliettes. Ils sont aux oubliettes, je sais pas, dans les cartons.
A priori, ça a jamais été en fait analysé.
Ça, c'était
en fait
encore le cirque à Macron. Histoire de dire, vous voyez, je vous écoute. Mais en fait, rien du
Peanuts.
Tout. Peanuts. En fait, ils ignorent les Français, ils ignorent le peuple. On n'est rien du tout pour eux. Zéro la barre.
Comment voulez-vous que le citoyen ne se révolte pas?
Ça y est, le feu, il prend, là. Commence à prendre. Là, c'est le carton qui brûle pour le moment.
Gaspard Glanz, ça nous renvoie à ce qu'on disait, hein. Tout ça pour ça, c'est terrible.
Oui, oui. C'est vrai que les ronds-points, ça ne s'est jamais arrêté, et en même temps, on les voit aujourd'hui avec des revendications qui sont clairement orientées sur la réforme des retraites, et qui ont de moins en moins à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, et que c'était plus une, ça ressemble plus à une part de la population qui avait besoin de se sentir impliquée dans le processus politique, et ça a été la forme qu'elle a fini par utiliser pour s'exprimer et pour se ressentir impliquée plus dans le système politique, et je pense que ça montre qu'il y a vraiment de plus en plus de Français qui ont l'impression que malgré le pouvoir du vote, ils n'ont aucun impact sur leur destin, sur leur portefeuille, sur leur retraite, etc.
Et surtout que les crises s'aggravent, puisque depuis cet épisode de 2018, il y a eu la Covid, mais je mets ça de côté, mais il y a les prix de l'essence, les prix de l'énergie qui plombent terriblement les budgets, et bien sûr les budgets les plus fragiles.
Moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui là, en l'occurrence au moment de la réforme des retraites, qui étaient prêts à se mobiliser. D'ailleurs, on voit qu'il y a quand même vraiment beaucoup de gens dans la rue. La population n'a rien à voir avec celle des Gilets jaunes. Là, dans les manifestations des retraites, on a des parents avec des enfants en bas âge et on a des mamies dans des chaises roulantes. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans le mouvement des Gilets jaunes, qui, comme vous l'avez précisé, était plus avec une catégorie jeune, une catégorie ouvrière. C'était plus, on va dire, les personnes qui travaillent. Et donc, la mobilisation pourrait être forte aujourd'hui, mais la situation économique est telle, le moral aussi des citoyens est tel, que et puis la répression a été forte aussi, comme vous l'avez précisé dans le reportage, avec des blessures, avec des arrestations, des condamnations, que probablement on n'a pas de mouvement social aujourd'hui, non pas parce que les revendications ont disparu, mais parce que la population est trop concentrée sur sa détresse sociale, en fait, sur le fait de faire les courses, de finir le mois, de la situation est pire, oui, ça c'est sûr, qu'au moment du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas de son émergence, quoi.
Enfin, c'est un chapitre important, quel est votre regard sur le traitement médiatique des Gilets jaunes? Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment une affaire sensible dans l'affaire sensible.
Alors, ça serait un très long sujet, il faudrait presque refaire une émission, mais je pense que ça a révélé que les chaînes d'information continue ne sont pas le graal de l'information. Ça a révélé aussi des citoyens qui se mettent à faire leur propre reportage vidéo. Ça existait déjà pour le son, ça existait déjà pour la photographie, ça existait pas vraiment encore pour la vidéo, pour des raisons technologiques. Et entre 2015 et aujourd'hui, tout le monde a une caméra dans sa poche, tout le monde peut diffuser des vidéos, même en direct maintenant. Et on a donc vu cette forme apparaître. D'auto-médiatisation, plutôt que de critiquer les médias directement, le mouvement des Gilets jaunes s'est mis, et des retraites s'est mis à s'auto-médiatiser, en fait. Gérer ses propres réseaux. Et quitte même à avoir une meilleure audience, parfois, sur certains sujets, une meilleure exclusivité que des médias officiels. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, ça fait pas tout. Je pense que la comparaison, un des éléments peut-être les plus intéressants, c'est que on est maintenant 5 ans après le début du mouvement des Gilets jaunes et qu'on a toujours le même président et qu'on n'a pas l'impression que les revendications des Gilets jaunes aient été entendues ou aient été, on va dire, même contournées. Elles sont toujours là, elles sont toujours présentes. Augmentation des prix, l'essence, c'est les méthodes de revendication et d'action des gens qui ont changé, qui se sont arrêtés parfois pour X raisons, mais il n'y a pas eu de réponse politique. D'accord. À tout ça. Il n'y a pas.
Gaspard Glanz, pardon, je vous coupe un peu brutalement, mais c'est la fin de l'émission. En tout cas, merci.
Merci de m'avoir invité.
Mais je vous en prie, vous étiez dans les studios de France Bleu Alsace, que nous remercions pour leur accueil. Merci, au revoir. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, les Gilets jaunes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait Céline Guéribi.